Previously on Desperate Housewives.
Previously on Buffy the Vampire Slayer.
Previously on Daniel.
Previously on Law.
Previously on Fringe.
Bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans Précédemment. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Dufraise. Sylvain Dufraise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une histoire sportive de la guerre froide au Nouveau Monde Édition. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la nuit du dimanche. Avant de commencer, je vous présente, vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous enseignez l'histoire du sport et des pratiques physiques. C'est ça ? C'est
bien ça ? Oui, et j'enseigne à Nantes Université.
L'histoire du sport et des pratiques physiques, c'est une spécialité de l'histoire contemporaine ou c'est comment ça fonctionne ?
Non, enfin, c'est pas une spécialité clairement désignée. Hein, c'est plutôt un champ de recherche qui s'est développé au cours des années 80 et qui a progressivement été légitimé au cours des années 2000-2010. Et donc, c'est un champ finalement qui est assez neuf et qui encore où il y a encore beaucoup à défricher et qui finalement est un champ qui devient un champ d'intérêt, un champ qui permet en fait d'éclairer l'histoire nationale, mais aussi l'histoire transnationale par le prisme du sport. Et moi, en fait, c'est la démarche que je souhaite en fait utiliser. Ce n'est pas faire de l'histoire du sport pour l'histoire du sport, c'est essayer de montrer en fait comment l'histoire du sport éclaire l'histoire de l'Union soviétique ou comment l'histoire du sport éclaire aussi le conflit de guerre froide, en fait. Comment, finalement, par ce prisme-là, on peut avoir une autre lecture de la guerre froide que la lecture dominante.
Ouais. Et c'est ce qui transparaît dans votre livre, justement. C'est, vous venez de définir un petit peu ce que j'ai compris de votre livre. Avant de démarrer, je vais vous poser la même question qu'on pose à tous les historiens qui passent par notre émission. C'est comment naît la vocation de l'histoire. Il y a un déclic, vous avez eu un déclic pour ça ou c'est une suite logique pour vous dans votre cursus universitaire ?
Alors, c'est plus une suite logique, mais ce qui m'intéressait, c'est plutôt l'objet sport que je vais essayer de vous présenter ici et comment on en vient à étudier l'objet sport. En fait, pour le cas soviétique, ce qui m'apparaissait quand j'étais étudiant, c'est qu'en fait, il y avait des domaines qui étaient des domaines plus légitimes. Hein. Les domaines, par exemple, de l'art, que ce soit de l'opéra, que ce soit du ballet, que ce soit aussi l'art de l'avant-garde, que ce soit la littérature qui était, ou le cinéma également, qui était beaucoup plus étudié. Et parfois aussi qui étaient finalement des phénomènes culturels qui touchaient un nombre plus restreint de la population. Et ce qui me semblait en fait, c'est que l'histoire du sport, quand on travaillait sur l'Union soviétique, elle permettait aussi d'étudier des phénomènes de masse finalement, et aussi des pratiques culturelles qui étaient à la fois des outils du rayonnement soviétique, à la fois des outils de la refonte en fait anthropologique qui avait été voulue par les bolcheviks, et également ça nous permettait en fait de mettre l'accent sur comment en fait l'Union soviétique avait considéré la question des loisirs. Et donc, il me semblait qu'à travers le sport, on pouvait faire une histoire finalement plus populaire de l'Union soviétique et de s'interroger en fait sur les phénomènes de masse, de culture de masse qui ont eu cours au XXe siècle et de voir finalement quelle était la spécificité soviétique en la matière.
D'accord, super. Sur la conception des loisirs, vous en parlez aussi dans le livre, j'en parlerai notamment quand on va parler de propagande. Il y a des questions qui me sont venues à la lecture de votre livre, mais ça, je fais un petit teasing. On va rentrer dans le livre du coup. Alors moi, le premier truc vraiment que je me suis dit à la lecture des 100 premières pages, c'est que je me suis dit que l'Union soviétique a gagné le premier round. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Alors, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que l'Union soviétique a gagné le premier round. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment l'Union soviétique a été un pays finalement très moteur et très avancé sur la question de la préparation des sportifs de haut niveau. En fait, cette orientation vers la mise en place de politiques sportives, eh bien, elle est très précoce en Union soviétique. Il y a des systèmes aussi à la fois de formation qui émergent dès le milieu des années 30, hein, de formation des athlètes, mais aussi des systèmes de rémunération de la performance. En fait, ça, c'est un élément qui est très important quand on pense à l'élite sportive et aussi aux manières dont on peut produire des champions, c'est finalement d'avoir des systèmes de rémunération stables qui permettent aux athlètes de s'entraîner. Et en fait, l'Union soviétique, elle met en place ça dès 1947, hein, elle met en place des systèmes de bourses qui proposent en fait des bourses quasiment équivalentes pour les hommes et les femmes sportives. Et elle propose aussi des systèmes d'émulation avec des formes de primes si l'on obtient des titres de champion du monde, si l'on obtient ensuite, à partir de 1952, des titres de champion olympique. Et donc, on voit finalement comment les voies vers l'élitisme sportif, elles ont pu être stimulées aussi. Et ça, c'est ce que j'avais montré dans mon premier ouvrage, « Les héros du sport ». Et là, en fait, il faut rappeler quand même que l'Union soviétique, entre 1921 et 1937, n'est pas partie prenante du sport mondial. Elle a cherché à développer sa propre internationale, l'Internationale rouge du sport, et c'est uniquement à partir de 1946 que, pour des raisons de rayonnement sportif, pour des raisons de projection internationale et d'usage du sport pour montrer les succès soviétiques à des publics qui ne sont pas forcément pro-communistes, eh bien, que les dirigeants sportifs soviétiques et les dirigeants politiques se convertissent au sport international, entrent dans les fédérations internationales pour participer aux championnats du monde, mais aussi pour que leur record soit homologué. Puis, à partir de 1951, le CNO soviétique entre au CIO, ce qui permet aux sportifs soviétiques et aux sportifs soviétiques en 1952 de participer aux Jeux Olympiques d'Helsinki, puis en 1956 de participer aux Jeux de Cortina d'Ampezzo. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir un phénomène de convergence qui se déroule entre 1946 et puis le milieu des années 50. Et à partir de 1956, à partir des Jeux de Melbourne en particulier, les dirigeants du sport soviétique vont appliquer des méthodes qui étaient des méthodes appliquées dans l'industrie, hein, par exemple, celle de la planification, celle de la centralisation des données, celle aussi de l'usage en fait d'indicateurs de performance pour planifier les performances et pour construire la préparation des sportifs de haut niveau. Et finalement, les Américains se trouvent dans cette première partie assez démunis. Et c'est ce que dit par exemple Richard Walsh face aux dirigeants de l'Amateur Athletic Union en 1951. Il leur dit « Regardez, les soviétiques ont fait du sport un outil de rayonnement, ils cherchent à devenir les meilleurs sportifs du monde et il faut maintenant que les États-Unis se ressaisissent, il faut essayer de trouver des voies pour que ce champ de l'image, cet espace de propagande ne soit pas uniquement dominé par les soviétiques.
Moi j'ai vraiment eu cette impression-là que le camp américain, entre guillemets, agissait en réaction plus qu'autre chose. Mais là, dans ce que vous avez dit, il y a deux points qui me parlent et que j'ai découvert en lisant votre livre. D'abord, c'est l'antagonisme entre sport amateur et sport pro que vous décrivez dans votre livre. Et j'ai trouvé ça très, très hypocrite. En tout cas, on dit que le sport doit être amateur quand ils sont tous plus ou moins payés. Vous racontez d'ailleurs dans votre livre qu'il y a des militaires qui participent au, ben, au JO ou aux manifestations sportives mondiales et qui sont de toute façon payés pour faire du sport. Et vous avez parlé de la Russie aussi qui s'intègre entre guillemets dans les instances sportives internationales et qui font tout pour ben pour avoir une grosse influence quoi sur sur les décisions. Vous écrivez dans le livre de mémoire rideau de fer, c'est un rideau de nylon en sport.
Oui, alors ça, en fait, sur cette question du rideau de nylon, je m'appuie plutôt sur les travaux récents en histoire de la guerre froide qui ont eu tendance à s'intéresser davantage aux circulations au travers du rideau de fer. Et en fait, ce que montrent les chercheurs, c'est qu'il y a en fait des points de connexion, que ce soit dans le domaine commercial, que ce soit dans le domaine de l'art, que ce soit dans le domaine scientifique, qui permettent à certains membres, certains représentants des démocraties populaires ou du RSS de traverser le rideau de fer. Et le sport, c'est un très bon exemple, voire c'est un exemple paradigmatique de ces populations qui peuvent, avec beaucoup de fréquence, participer à des compétitions à l'étranger, donc traverser le rideau de fer. En effet, en fait, ce qui est aussi important à noter, c'est que les années 50 sont un moment d'intensification du calendrier sportif. Alors, vous avez bien évidemment des championnats du monde, vous avez bien évidemment des compétitions olympiques hein, tous les 4 ans, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que vous avez tout un ensemble de compétitions qui se développent au cours des années 50. C'est des Coupes d'Europe, également des compétitions bilatérales qui sont organisées dans le cadre de coopération bilatérale entre pays. Alors, on a par exemple les matchs URSS-États-Unis en athlétisme, en basketball, qui deviennent en fait des rituels du calendrier sportif. Et puis, vous avez des tours, par exemple, vous avez la course de l'Europe, la course de la paix qui parcourt une partie des pays du bloc socialiste. Donc, on voit un ensemble de compétitions, mais également, vous avez d'autres manifestations qui drainent en fait les rencontres sportives. Ce sont aussi par exemple les tournées, puisque ce soit les États-Unis ou l'URSS utilisent la tournée de sportifs pour des matchs de démonstration, pour des rencontres avec des acteurs locaux, comme un moyen de projeter la supériorité de son modèle sportif à la fois en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou dans les Antilles. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment les sportifs parcourent le monde et traversent en fait ce rideau de fer. Et donc, le monde du sport est le monde du sport d'élite hein, est un monde où finalement où le rideau de fer est peu efficace en fait. Et peu efficace. Alors, vous aviez évoqué un autre point outre le rideau de nylon.
La guerre amateur pro.
La guerre amateur professionnelle. Alors, ça, c'est un point important parce que depuis la fin du 19e siècle, il existe en fait deux types de pratiques, hein. Une pratique amateur, une pratique professionnelle. Ce sont deux mondes du sport qui émergent de manière contemporaine et une qui va être plutôt liée au sport spectacle et puis l'autre qui va être plutôt liée au sport aristocratique. Et comme à l'origine, les Jeux olympiques ne doivent rassembler que l'élite éclairée des futurs dirigeants du monde, eh bien, Pierre de Coubertin fait de l'amateurisme un des critères nécessaires pour participer à ces compétitions. Et le CIO va défendre une vision du sport amateur, de la nécessité d'être amateur pour participer aux compétitions olympiques. Alors, d'autres fédérations internationales s'opposent à cette conception. C'est le cas, par exemple, de la Fédération internationale de football, qui, dans l'opposition qu'elle va avoir au CIO, va créer la Coupe du Monde de football en 1930. Et cette Coupe du Monde, elle a pour objectif de rassembler les sportifs professionnels. Alors, cette question de l'amateurisme, elle devient très clivante au moment de l'entrée des soviétiques dans les compétitions internationales, puisque les dirigeants américains, les dirigeants, aussi certains dirigeants européens, vont dénoncer le fait que les soviétiques sont des amateurs d'État, pratiquent une forme de faux amateurisme. Ils vont dénoncer le système de bourse qui a été mis en place en 1947, le fait que pour pouvoir s'entraîner, les sportifs d'élite obtiennent des bourses assez importantes, de 2 500 roubles par mois. Et donc, ils ne vont pas cesser de s'adresser au CIO pour leur dire « Regardez, on a des preuves en fait, que les sportifs soviétiques ne sont pas de vrais amateurs. » Alors, pour les Jeux de 56, alors que le gouvernement américain cherche à préparer la riposte en fait en matière de propagande pour les Jeux olympiques, il confie une mission, c'est-à-dire de voir comment on peut attaquer les soviétiques, les sportifs soviétiques. Et en fait, à l'issue de cette mission, les responsables de cette mission disent « Mais attention à ne pas les attaquer sur cette question de l'amateurisme d'État, puisque nos champions aussi ne respectent pas finalement totalement les codes, le code de l'amateurisme du CIO. Une partie reçoivent des bourses dans les universités et une partie sont aussi des soldats qui profitent en fait de leur service militaire en fait pour pouvoir s'entraîner. » Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est cette forme d'hypocrisie autour de l'amateurisme. Alors cette question de l'amateurisme, en fait, elle a un élément déterminant, c'est qu'elle va permettre, par exemple, dans tous les sports collectifs pour les pays du bloc socialiste, d'avoir les meilleurs représentants pour les compétitions olympiques, que ce soit en football, en basket, que ce soit également en hockey sur glace. Et c'est ce qui explique la prédomination des représentants du bloc socialiste dans ces disciplines particulièrement, puisqu'aux États-Unis, les meilleurs basketteurs, les meilleurs hockeyeurs, au Canada également, partent dans les championnats professionnels quand ils sont une vingtaine d'années. Et cet aspect de l'amateurisme, en fait, il va permettre aux représentants du bloc socialiste d'avoir une domination dans ces disciplines et également par exemple en lutte. Et c'est un point qui va ressurgir dans les années 80 puisque finalement donc c'est un point qui est latent dans les discussions. Il y a même une commission d'amateurisme au CIO qui est chargée de définir des nouvelles règles, mais en fait ça aboutit sur un échec. Et donc à partir de 1981 au congrès de Baden-Baden et les dirigeants du CIO décide de ne plus légiférer, de ne plus réglementer en matière d'amateurisme et considère que ce sont les fédérations internationales qui doivent se charger de considérer qui peut participer aux compétitions olympiques ou non. Et cela fait, en fait, c'était une proposition qui avait été préparée dans une commission qui avait été organisée par Ford, du président américain Ford, pour essayer de lutter contre la domination soviétique dans les compétitions internationales. Et c'est ce qui permet, à partir de 1988, d'avoir des tennismen et des tenniswomen professionnels, et puis à partir de 1992, d'avoir des champions de la NBA dans les compétitions olympiques.
Je rebondis sur ce que vous avez dit au début, notamment sur la domination russe dans les compétitions. Parce que si j'ai bien compris votre livre, c'est qu'ils envoient même uniquement les sportifs s'ils sont assurés d'avoir une médaille, quoi.
C'est sous Staline que seuls peuvent prendre part aux compétitions olympiques. les sportifs qui sont sûrs de remporter une médaille, puisque en fait Staline ne veut pas d'humiliation par le sport, d'humiliation sur le terrain sportif. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que entre 46 et 50 environ, c'est principalement des femmes qui vont participer aux compétitions internationales, puisque les championnes soviétiques sont vraiment parmi les meilleures mondiales en patinage de vitesse, en athlétisme. Et donc, on voit aussi comment cette nécessité de la victoire, elle aboutit à faire que eh bien, les femmes soviétiques peuvent prendre part aux compétitions internationales.
Il y a quelque chose qui m'a étonné aussi dans votre livre, vous le racontez au début, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc c'est au sorti de la guerre 45, bon, mondialement c'est la foire, on va dire. Donc il y a le ménage, on évacue tous les nazis et sympathisants. Et c'est un travail qui n'est pas fait dans le sport et dans les instances sportives. Et je me suis demandé pourquoi, d'après vous, ce ménage n'a pas été fait. Est-ce que parce qu'on pensait, bon, ben, le sport, ce n'est pas la priorité, il y a plus important. Et parce que vous écrivez quand même dans le livre que le sport et ses instances ont été le lieu de compromis et de collaboration. Pourquoi il y a eu un pragmatisme dans ce milieu-là ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est l'usage de l'usage politique de l'apolitisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a contribué à éviter la dénazification. Les dirigeants les plus compromis, hein, comme par exemple ceux qui avaient dirigé la fédération de handball ou de boxe, eux sont mis de côté. Vous avez certains membres, par exemple du CIO, qui doivent être remplacés, qui quittent leurs fonctions. Mais pour la plupart, en fait, ils vont bénéficier de l'entrée de l'URSS, en fait. L'entrée de l'URSS dans le CIO, c'est aussi un moyen de prouver que le monde du sport passe au-delà des divisions politiques. Et ça, c'est un point important parce que ça permet aussi le fonctionnement de ces instances internationales du sport. En gros, pour ces instances internationales, à chaque fois, l'objectif de ces instances, c'est d'avoir la domination sur un sport, une discipline, de pouvoir le réglementer, de maîtriser l'octroi des titres de champion du monde ou, pour le CIO, de titres de champion olympique. Et donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elles sont confrontées aussi pour se maintenir, hein, pour maintenir et pour rester légitimes, elles vont étendre leur nombre de membres. Et pour ça, elles vont faire de l'apolitisme un étendard, de l'apolitisme sportif un étendard. Et ce qui fait que vous allez retrouver finalement aussi des gens, par exemple, en athlétisme qui avaient frayé avec le régime fasciste et qui vont être partie prenante des instances du sport international. Mais comme le sport est apolitique, comme le sport est construit comme un espace apolitique, eh bien, finalement, on n'a pas besoin de faire attention aux affinités politiques de chacun. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'est la défense de l'apolitisme qui va permettre à la fois l'ouverture aux pays socialistes, mais aussi le fait de pouvoir continuer d'accueillir des gens qui ont eu des affinités avec les régimes nazis et fascistes.
Alors, à politique, hein, vous venez de le dire, mais moi j'ai l'impression à la lecture du livre qu'on s'acharne à dire que le sport n'est pas politique, alors que toutes les coulisses, c'est que de la politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, mais disons que pour moi, c'est comme le domaine de la science ou de l'art. C'est-à-dire que c'est un domaine dans lequel vous avez à la fois des formes de coopération, de collaboration et aussi d'opposition pour des visions du sport, pour des conceptions du sport et pour proposer des manières de gouverner le sport. Alors, je vais prendre un exemple avec les soviétiques qui, lors des années 50, ne cessent de dénoncer le fait que le CIO n'est pas une instance démocratique. et que le CEO est un club coopté d'aristocrates et de grands bourgeois. Et il propose en 59, puis jusqu'en 61, des réformes qui ont pour objectif de rendre plus démocratique le CIO, de permettre à chaque comité national olympique d'avoir un membre, de permettre à chaque fédération d'avoir, d'avoir un représentant au CIO. Et ça, en fait, ça va être un des projets soviétiques, comme aussi le projet d'aide au CNO des pays nouvellement créés, issus d'Asie et d'Afrique, donc des comités nationaux olympiques. Les soviétiques vont être les porteurs de l'aide au développement sportif au sein du CIO auprès des pays nouvellement indépendants, et ils vont se rapprocher de certains membres français qui vont avoir aussi cette vision-là que le CIO doit organiser l'aide aux pays nouvellement indépendants. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que le sport, c'est un espace aussi, le sport international, c'est un espace d'opposition, des conceptions, d'opposition sur ce que doit être le sport. Et c'est aussi comme ça, en fait, que cette vision politique du sport, elle peut être marquée. Alors, pour moi, il faut aussi garder un élément en tête. Hein, et souvent, les gens qui font de la géopolitique du sport ont tendance à complètement oublier ça. C'est que la manière dont le sport est organisé internationalement, c'est organisé par des organisations de type privé. Donc, on n'est pas du tout, comme dans d'autres domaines, comme avec la santé, avec l'OMS, où ce sont des représentants des gouvernements qui participent à l'Organisation mondiale de la santé. On est dans un domaine où l'organisation du sport international est gérée par des organisations privées qui ne sont pas interétatiques et pas intergouvernementales. Et donc, les États, c'est ça aussi qui permet ce que vous avez indiqué tout à l'heure, cette défense finalement d'un apolitisme de façade, c'est parce qu'elles sont tenues par des organisations qui sont des organisations de type privé. Mais ça aboutit à des éléments, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour les représentants soviétiques, pour les représentants socialistes, s'adapter à ce type d'organisation auquel ils ne sont pas forcément habitués.
Ça marche. Sur ça, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec l'histoire de Adidas que j'ai découvert dans votre livre, que j'en étais absolument pas au courant et qui est énorme pour moi. C'est la plus grosse claque que j'ai eue en lisant votre livre, c'est cette histoire-là, quoi. Mais on y reviendra tout à l'heure. vous avez parlé de nouveaux pays, là, je rebondis, on fait un bond dans le livre. Vous parlez aussi de la décolonisation dans le livre et de l'impact qu'a eu la guerre froide dans les nouvelles terres d'influence, entre guillemets. Et là aussi, j'ai l'impression que l'Union soviétique remporte la première bataille, quoi, sur les pays décolonisés.
Alors, elle remporte la première bataille parce qu'elle est aussi une des premières à s'y investir. C'est vraiment par la question de l'aide au développement qui passe par l'envoi d'experts, par l'accueil en URSS de
délégations
cadres, mais aussi de futurs sportifs. Et puis, c'est aussi par l'aide à la construction d'équipements. Donc, on voit ici comment les soviétiques ont cherché aussi à faire du levier sportif un moyen de construction de l'influence. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les experts soviétiques, quand on leur demande par exemple de construire, c'est en Guinée, un stade, ils sont quand même un peu réticents parce qu'ils disent finalement, est-ce que ce sont les équipements prioritaires, construire un stade de 30 000 places, 40 000 places, est-ce que ce sont les équipements prioritaires ? Sur cette question aussi, il y a un point qui est évident, c'est la question de l'Afrique du Sud, puisque ce qui va faire aussi le succès soviétique en Afrique, c'est finalement la manière dont ils vont aussi s'appuyer sur les enjeux politiques locaux. En fait, l'Afrique du Sud, c'est un allié des États-Unis qui pratique l'apartheid. Et dans les instances internationales, eh bien, ce sont les représentants socialistes et l'URSS qui défendent la cause des sportifs noirs et métis en Afrique du Sud qui étaient exclus des compétitions olympiques. Et c'est eux, finalement, qui se font les porte-parole avec, bien évidemment, les alliés des démocraties populaires et les représentants des nouveaux pays indépendants, mais qui se font les porte-parole des Noirs et des Métis sud-africains et qui vont en particulier demander l'exclusion du Comité national olympique sud-africain qui réservait la participation aux compétitions olympiques à des athlètes blancs.
Alors, je rebondis sur ça. Donc, c'est face à cette influence russe, du coup, que les États-Unis réagissent, encore une fois, comme pour l'Europe, ils réagissent à l'influence russe, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, avec la création du Peace Corps et là, le sénateur Humphrey, de mémoire, qui alerte. Est-ce que vous pouvez nous parler du sénateur Humphrey et de la création des Peace Corps, s'il vous plaît?
On commence par... Alors, je vais plus directement vous parler des Peace Corps, en fait, avant. En gros, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux États-Unis, pour changer l'image de la population américaine, eh bien, à partir du milieu des années 50, il y a l'idée de développer ce qu'on appelle la people-to-people diplomatie, donc la diplomatie interpersonnelle. Et cela, en fait, ça passe par l'envoi de volontaires, ça passe par le développement de compétitions interpersonnelles amateurs. Alors, les Peace Corps, ils vont être développés à partir de 1961, et l'idée des Peace Corps, c'est d'envoyer des jeunes Américains, en particulier en Amérique latine, en Asie et en Afrique, pour à la fois fournir des éducateurs sportifs volontaires et en même temps promouvoir des sports qui sont, disons, plus américains, le baseball, le basketball, etc. Donc, on voit en fait comment cette diplomatie interpersonnelle, elle a aussi pour objectif de diffuser l'American Way of Life sur le terrain dans les pays en développement.
Alors, sur ça, ça me fait penser à toute l'histoire de la propagande que vous racontez aussi dans le livre. Et il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est à page 83 de votre livre, pour ceux qui veulent aller voir ça. Donc, vous racontez que l'Union soviétique met en avant la condition de la femme dans les pays de l'Est, en montrant qu'elle est dans la quête de l'égalité des sexes. Et tout ce passage-là, j'ai l'impression que c'était la Russie comme chantre de la vraie modernité par rapport aux États-Unis. Alors, quand on sait qu'elles étaient toutes contrôlées comme pas possible. Est-ce que j'ai bien compris là, ou je fais un contresens d'après vous?
Non, non, mais ça, c'est quelque chose qui s'est développé dès les années 20, dès les années 30. En gros, l'URSS comme espace de construction de l'égalité des sexes. Et on peut voir déjà émerger ça dans les années 30 avec la figure de femme ouvrière, la figure de femme tractoriste, le fait en fait que les femmes soient l'égale des hommes aussi dans le travail. Et le sport, c'est finalement un moyen assez simple de promouvoir cette égalité des sexes théoriques, puisque finalement, quand on regarde le concret, à partir des budgets temps, par exemple, qui ont été étudiés par Martine Mespoulet, on voit finalement des inégalités de statut qui demeurent très fortes. Mais au moins, du point de vue de la propagande, en fait, le sport a pu mettre en avant l'image de femmes émancipées, de femmes qui sortent de leur rôle de genre. Et par exemple, ça va être davantage sous Khrouchtchev, puisque sous Staline, en fait, les sportives sont montrées comme des sportives et des mères. Alors que sous Khrouchtchev, elles vont devenir des représentantes de la jeunesse soviétique qui, à côté de leur pratique de sport de haut niveau, suivent également des études de médecins, d'ingénieurs, de physiciennes. Donc, on va mettre en fait en avant des femmes qui peuvent aussi accéder à des métiers qui sont plutôt labellisés en Occident comme des métiers masculins. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que ces sportives, leur corps ne leur appartient pas et qu'il y a finalement des usages de leur, des usages propagandistes de leur corps, de leur situation. Et que le régime s'appuie en fait sur les récits de leur vie, sur les récits de leur quotidien pour mettre en avant les avancées supposées du régime.
Là, tout à l'heure, vous avez parlé de vie culturelle, entre guillemets, et on le voit aussi dans le livre, c'est-à-dire que l'URSS met en place des camps de jeunesse où ils font la propagande de leur vision du sport et de la vie dans l'Union soviétique. Vous avez aussi là encore les Américains qui réagissent en réaction à ça. Il y a une histoire folle. Vous parlez de je vais pas me souvenir du nom, pardon. Je crois que c'est David le prénom, et David Sim, qui est chargé par la CIA de recruter un des collègues de l'Est pour qu'il passe aux États-Unis.
Oui, alors ça, c'est des éléments intéressants aussi, puisque l'idée, ça va être de profiter, et ça, c'est théorisé par l'OTAN, hein, d'essayer de profiter de ces élites, de ces éléments soviétiques ou des pays socialistes qui partent à l'étranger pour mettre en avant les mauvais côtés du régime et pour se servir de leur popularité pour faire de la contre-propagande. Alors, vous avez plusieurs aspects qui vont être utilisés. Par exemple, à partir de 1956, à la suite de ce qui va toucher la lanceuse de disques Nina Ponomariova, eh bien, les journalistes vont mettre l'accent sur le fait que même les élites du RSS, eh bien, sont attirées par les biens de consommation occidentaux. Alors ça va être un élément qui va être utilisé dans la contre-propagande. Mais vous avez également la question de la défection. En gros, la défection, c'est un moyen de montrer que même les élites du régime, eh bien, ne souhaite plus y vivre. Et c'est ce que m'avait raconté un athlète qui s'appelle Igor Terovanessian, eh bien, qu'il était ami avec des athlètes de l'étranger, de l'Occident, et certains d'entre eux étaient chargés de lui proposer de faire défection. Alors, cette défection, finalement, elle est assez rare. Il y a eu assez peu de cas de défection lors de l'ensemble de la période de la guerre froide. En fait, ça s'explique par plusieurs raisons. C'est-à-dire que les sportifs soviétiques et puis globalement ceux des démocraties populaires avaient un statut social plutôt confortable, un mode de vie plutôt confortable et surtout une vie future qui leur était assurée. Ce qui est moins le cas en fait quand ils arrivent en Occident où derrière il faut s'adapter, apprendre la langue, s'adapter aussi à des modes de fonctionnement extrêmement différents. Et ensuite, il faut bien évidemment ne pas oublier les pressions, hein, pressions qui étaient faites en amont du départ, mais aussi au moment même du départ. Donc, il y a un cas en 76 aux Jeux Olympiques de Montréal où un plongeur, Nemtsanov, essaie de fuir et en fait, outre un scandale diplomatique, Nemtsanov rencontre les représentants soviétiques qui le mettent en contact avec sa grand-mère, etc. Et donc, vous voyez des formes de pression qui sont faites hein, sur les sportifs qui souhaitent faire défection en amont et au moment même de la défection.
Je reviens sur Nina Ponomareva, excusez-moi. C'est une histoire folle, j'ai trouvé ça aussi. C'est-à-dire qu'elle est arrêtée en Angleterre de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas. Et parce qu'on retrouve dans son sac, à l'issue d'une séance de shopping, des bérets, quatre serre-têtes de mémoire et un ou deux chapeaux à plumes. Un truc fou. Mais je trouve que cette histoire-là, et qu'on trouve dans votre livre, donc, elle est symptomatique de ce qu'il y a dans votre livre. Enfin, symptomatique. C'est-à-dire qu'elle c'est rempli d'anecdotes et d'histoires qu'on ne connaît pas forcément. Et si je devais faire la liste de ce que j'ai appris, ce serait grand. Et je me suis dit, comment vous avez pu trouver tout ça? Quand on lit votre bibliographie à la fin du livre, tous les éléments que vous avez été chercher pour constituer le livre, est-ce que vous avez du mal à trouver les éléments? Est-ce qu'il y a une difficulté à chercher ou c'est juste qu'il faut mettre du temps et puis basta, quoi?
Non, c'est plutôt il faut mettre du temps et passer du temps. Donc moi, je travaille sur les questions de guerre froide sportive depuis maintenant à peu près 15 ans. Et donc ce livre, il est aussi le produit de 15 années de recherche, dont plusieurs années, 2 ans de travail intensif dans les archives soviétiques, où ensuite j'ai été également dans les archives bulgares, dans les archives roumaines, dans les archives de RDA. Donc, c'est issu d'un travail conséquent de travail. Et puis, moi, ce qui m'a importé aussi, c'est de s'appuyer sur la nouvelle historiographie de la guerre froide qui cherche à dépasser les cénacles gouvernementaux et qui cherche à s'appuyer aussi sur les différents acteurs de la guerre froide. Mais ces acteurs, en fait, c'est aussi, ça peut être la guerre froide vue d'en bas, la guerre froide vue par les individus, etc. Et j'ai essayé en fait de mettre en lien ces différents niveaux dans cet ouvrage pour essayer voilà, de s'intéresser aussi par exemple au vécu des sportifs qui étaient traversés en fait, dont la vie était traversée par des enjeux qui étaient des enjeux géopolitiques.
Ouais, ça se sent dans le livre. Au niveau de la propagande, j'aimerais aussi revenir sur les sportifs parce qu'on parle beaucoup d'instances là dans notre entretien, d'instances sportives, etc. Mais on parle assez peu des sportifs. Et j'ai trouvé, alors ça va être terrible de dire ça, vous allez me dire si vous abondez dans mon sens ou pas. Alors les sportifs, déjà ça parle. ils font pas juste du sport et ça devient aussi un moyen de propagande pour les deux pays et je me suis demandé s'ils étaient formés à le faire, si mais la Russie avait conscience qu'on pouvait envoyer sportifs pour faire la promotion de son mode de vie, de même que les États-Unis. Et vous donnez des exemples dans votre livre, notamment avec Zatopek pour un camp et ou Mohamed Ali pour l'autre. Et moi, dans ma tête, alors c'est peut-être un biais, hein, j'ai pensé que Mohamed Ali était sincère dans ses démarches, mais que Zatopek avait été contrôlé par l'URSS. Est-ce que je vise juste ou c'est un fantasme de ma part?
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du discours des athlètes, la manière dont, progressivement, le discours des athlètes va s'individualiser. Je pense par exemple en 1968 quand Tommy Smith, John Carlos lève le poing, mais aussi quand Vyacheslavka baisse la tête sur le podium. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est aussi comment en fait ce discours des athlètes devient l'objet d'un contrôle plus grand. Et ça, en fait, en Union soviétique, c'est complètement patent. C'est-à-dire qu'à partir de la fin du début des années 60, eh bien, le discours des athlètes va être formaté par des cours en amont, lors des stages d'entraînement, où on va leur dire voilà ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent réaliser, comment se comporter à l'étranger, etc. Donc, le fait que des dispositifs de contrôle se mettent en œuvre, soient mis en place, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest, eh bien, ça montre comment, finalement, le discours des athlètes devient lui aussi un enjeu géopolitique. Et le principal point de contrôle pour les soviétiques, ça va être d'éviter que leurs athlètes fassent des choses qui puissent être reprises par la propagande. Et donc, ils vont se mettre en place vraiment à partir du milieu des années 60 un contrôle beaucoup plus fin de ses athlètes, beaucoup plus tramé autour d'eux, pour éviter qu'ils ne se comportent mal et pour favoriser l'autocensure.
Ce que vous êtes en train de le dire, là, ça me fait penser à ce que vous racontez dans le livre, c'est l'espèce de conseil, de concile du sport réuni à Varna en 73, pardon, du 1er au 4 novembre, où on dit que y a une absence dans les instances du sport, c'est au fond, c'est l'athlète dont on ne parle pas assez. Et c'est un concile qui doit remettre ça au goût du jour, j'ai envie de dire.
Oui, alors ça, c'est un point important. Ça montre aussi, justement, l'évolution du sport international. Dire que les athlètes, finalement, ce sont eux qui sont au cœur du spectacle sportif, mais c'est eux qui ont eu le moins de droit, moins de voix au chapitre. Et donc, ça, c'est à partir, en effet, de Varna, du congrès olympique de Varna, eh bien que la question des athlètes, elle est mise sur le devant de la scène. Et puis ça aboutit en fait en 1981 à ce qu'il y ait des représentants à Baden-Baden, des athlètes au congrès olympique pour pouvoir défendre la cause des athlètes. Donc on voit, ça c'est aussi intéressant, mais c'est aussi pour moi symptomatique des évolutions de la période, du fait qu'on donne plus de voix à la jeunesse, qu'on tienne davantage compte de ces demandes. Donc, pour moi, c'est aussi lié à des formes de démocratisation.
Vous racontez aussi dans le livre l'arrivée des docteurs et de tout un staff technique autour des sportifs. Dans les années 60, 64, vous dites en 72 à Munich, la sélection canadienne dispose d'une équipe de 13 professionnels de santé. Ça a démarré bien avant. Moi, je mets ça en relation avec ce que vous racontez un peu plus loin dans le livre sur l'histoire du dopage. Vous racontez qu'en 1984, au JO de Los Angeles, on dit carrément aux instances de antidopage de se calmer un petit peu. Parce que les télés ont dépensé des centaines de millions pour les rediffusions et qu'il leur faut du spectacle et que donc on va se calmer sur le dopage, il faut laisser faire les médecins, quoi.
Je trouve ça. Ça c'est aussi un élément. En fait, la question du pouvoir médical, elle est même plus ancienne. C'est-à-dire que les médecins sont parmi ceux qui à la fois diffusent la question de l'activité physique dès la fin du 19e. Mais qui cherchent à contrôler. Et jusque-là, ils sont assez à côté des instances internationales du sport. Et justement, c'est le recours à l'expertise qu'on retrouve à partir du milieu des années 60. Expertise à la fois sur la question de la performance, mais aussi sur la question de l'âge des athlètes, sur la question de l'altitude, qui conduit à faire appel aux médecins et à les intégrer dans les instances internationales. Et en effet, la question du dopage est une question fondamentale, puisque les instances internationales sont jusque-là, jusqu'au milieu des années 60, assez incompétentes en la matière. Et donc, le dopage va être un moyen, et la lutte antidopage est un moyen pour les médecins d'entrer dans les compétitions, dans les instances internationales, et de défendre en fait leur manière de concevoir la pratique. Alors sur cette question du dopage, c'est une question qui est passionnante, parce qu'on a tendance à imaginer que on a toujours voulu lutter contre le dopage. En fait, non, c'est situé dans le temps. Les premiers contrôles antidopage, c'est 1968. Et la définition même de ce que c'est le dopage, elle dépend à la fois de débats au sein des commissions médicales, mais aussi elle dépend des possibilités que les médecins ont pour contrôler. Par exemple, les stéroïdes ne sont pas considérés comme des produits dopants jusqu'à la fin des années 70. C'est en 76 que les premiers contrôles de stéroïdes ont lieu aux Jeux Olympiques. Les bêta-bloquants sont interdits en 1988. Donc, on voit finalement aussi comment se constitue une lutte antidopage. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment elle correspond à une tendance aussi globale. Parce que c'est au même moment, finalement, que vous avez le lancement de la lutte contre les drogues, contre l'usage des drogues, contre l'usage des stupéfiants. Et donc, vous avez finalement des phénomènes qui sont parallèles.
Ok, super. Votre livre raconte aussi tout l'aspect commercial du sport, mais il y a plusieurs histoires qui m'ont choqué, qui m'ont marqué en tout cas dans ce que vous racontez. Alors je vais dire pêle-mêle, et puis vous choisirez celle que vous voulez raconter. Moi, ce qui m'a semblé fou, c'est les Jeux Olympiques de Moscou, la guerre entre guillemets Pepsi Coca-Cola. Dans quel endroit l'un sera vendu et l'autre sera interdit, pour pas donner trop goût aux Russes de goûter trop à la vie américaine. Ce qui m'a marqué aussi, c'est les premiers ventes de produits dérivés en 1965 lors d'un match de foot. C'était la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre l'Inter Milan et le Liverpool. Et Liverpool en 65, j'ai trouvé ça fou, moi. C'est là où les gens commencent à comprendre, si j'ai bien compris votre livre, hein, c'est à cette époque qu'on commence à comprendre que ça peut générer du fric, quoi.
Oui, alors complètement. En fait, ce qui est le sport, ça génère du fric depuis sa création, hein, depuis la fin du 19e siècle. La question de l'industrie du spectacle, hein, sportif, elle est importante. Mais elle ne touche pas les fédérations internationales de la même manière. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du milieu des années 70, les instances internationales se disent qui ont fonctionné jusque-là comme des grosses associations, hein, et à partir du milieu des années au début des années 70, eh bien les instances internationales voient qu'elles peuvent avoir des revenus beaucoup plus élevés à partir des droits télé, et puis avec la question du sponsoring aussi, à la fois des compétitions et puis la limitation du nombre de sponsors, la vente de droits dérivés, etc., etc. Et tout ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez à peu près les mêmes cabinets de conseil qui vont conseiller l'ensemble des fédérations internationales et qui vont progressivement faire que chacune va basculer dans ce modèle de sponsoring, hein, et de vente des droits télé. Vous avez par exemple des cabinets comme Wesnally qui vont être à la manœuvre, hein, pour diffuser ces modèles-là de financement du sport international. Et le développement des ressources est vraiment très élevé, ce qui permet aussi à ces instances internationales de se professionnaliser, d'avoir davantage de personnes. Et puis, une des nécessités aussi, c'est d'avoir recours à des juristes pour pouvoir justement établir les contrats, etc. Donc, cela touche les fédérations internationales dans les années 70, et le CIO va basculer en fait dans ce modèle-là sous Sam Arensh en 1985 avec l'adoption du programme The Olympic Partnership. Mais ce qu'il faut voir aussi, et là plutôt dans un côté Est-Ouest, c'est que les contacts entre l'Est et l'Ouest, que ce soit sous forme de compétition, etc., vont finalement permettre la diffusion de ces pratiques de commercialisation du sport dans les pays socialistes également. Alors, par exemple, lors des super séries au Canada et à Moscou en 1992, eh bien, ces pratiques comme ça de publicité sur les bords des patinoires vont pour la première fois avoir cours en Union soviétique. Et puis les Jeux Olympiques, c'est pour les organisateurs des Jeux Olympiques de Moscou un moyen aussi de commercialiser, de développer des grands contrats, de signer des grands contrats avec des entreprises étrangères qui vont leur fournir des équipements, qui vont leur fournir également la construction d'hôtels, l'amélioration des services, etc.
Je rebondis, hein, sur ça. Moi, c'est alors déjà sur l'aspect financier, vous racontez bien lors de l'organisation des JO à quel point ça a été d'abord un échec financier avant qu'ils arrivent à trouver l'équilibre. Échec financier à tel point que ça laissait les villes déficitaires et qu'il y a même eu une ville qui a refusé au final d'organiser les Jeux Olympiques parce que ça coûtait trop cher, quoi.
Oui, et puis parce que pour la première fois en 1976, hein, c'est la ville de Denver, et c'est aussi des enjeux environnementaux qui ont été à l'origine du refus d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver à Denver.
Ça, c'est fou, quoi. Une histoire folle. 1976. Et là, vous avez parlé de West Nally, et c'est ce que j'avais teasé au début. C'est-à-dire que c'est, moi, pour moi, c'est l'histoire qui m'a le plus marqué dans votre livre. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est le patron d'Adidas qui crée cette agence de lobby, quoi. Avec, de mémoire, je crois qu'il s'appelle Patrick Nally, son associé.
Oui.
Rappelez-moi qui est Patrick Nally, je l'ai oublié, je suis désolé.
Pour revenir, je vais quand même revenir d'abord sur Dassler. En fait, sur Dassler, c'est le patron de la filiale française qui, en fait, va avoir des contacts à la fois à l'est et à l'ouest. Il va en fait fournir les équipes socialistes de produits sportifs et en même temps il va se servir de ce lien entre l'Est et l'Ouest comme pour être devenir un faiseur de roi au sein des fédérations internationales. Donc ça c'est ce qui a été au cœur de la révolution d'Hassler. Et puis il va s'associer ensuite avec Patrick Nally, hein, qui est un homme d'affaires, et ils vont monter une société qui s'appelle West Nally, qui va être basée à Monaco en fait, et qui va être un cabinet de conseil, de consultant en vente des droits télé, en quête de sponsors, etc. Et c'est une des premières sociétés qui va développer une vision du management du sport fondée sur la commercialisation de l'image dans le sport.
C'est-à-dire qu'ils vendent du sponsoring et tout ça, quoi. Je trouve ça fou. Et je trouve ça fou à tel point que lorsqu'il est en bisbille avec son co-créateur, il se casse et il crée la même société, quoi, mais sous un autre nom. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle existe encore, cette société?
Alors, il me semble que oui, en fait, ces sociétés, et puis un certain nombre d'autres, hein, qui ont émergé à la fin des années 70, elles sont parmi les sociétés les plus puissantes, en fait, dans la commercialisation du droit du sport et la commercialisation du spectacle sportif.
Ça ne m'étonne pas. Votre livre, il est foisonnant, pardon, vraiment. On touche à peine la surface. Hein. On n'a pas encore parlé de l'opération Griffin, de l'influence de la guerre froide au niveau des deux Allemagne, par exemple, mais aussi des deux Chine, des Vietnam, etc. On n'a pas parlé des JO de Mexique qui ont commencé de façon très... très, très sanglantes et qui ont quand même été maintenues. Je dis tout ça parce qu'on approche de la fin de l'interview et c'est pour dire à ceux qui nous écoutent qu'on a à peine effleuré la surface de ce qu'est votre livre et au niveau de ce qu'il raconte et au niveau des exemples que vous donnez. Ça fuse, quoi, c'est foisonnant.
Et peut-être que pour conclure, en fait, moi, ce que je voulais mettre en avant en fait, dans ce livre, c'est finalement que la guerre froide n'a pas forcément eu... en gros, le sport n'a pas changé la guerre froide. En gros, ça a eu qu'un faible effet sur tout ce qui est chronologie politique, grands épisodes de la guerre froide. Par contre, la guerre froide a eu un effet majeur en fait, sur le sport mondial. Et ça, c'est un élément que je souhaite montrer dans ce livre, parce que en fait, cette période, elle a poussé le sport comme pratique d'élite à sa globalisation et aussi la guerre froide elle a en faisant du terrain sportif un affrontement entre les blocs a contribué aussi à au développement des sciences du sport, à la diffusion en fait de modèles de performance à l'ensemble du monde et à leur homogénéisation et à la développement au développement de standards internationaux au développement d'organisations internationales. Donc ce qui est intéressant, c'est finalement comment la guerre froide a été un moteur pour accélérer l'organisation, accélérer la mondialisation du sport et sa standardisation internationale.
Ok, super. Ben, merci beaucoup. Ça s'appelle « Une histoire sportive de la guerre froide ». C'est chez Nouveau Monde Éditions. On mettra les liens sur les réseaux sociaux et sur le site internet. N'hésitez pas à foncer dessus. Vous apprendrez plein de trucs. J'ai une dernière question, Sylvain Dufraise, que l'on pose à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui passent dans l'émission. Est-ce que vous pouvez nous conseiller un livre, un film, une série, quelque chose que vous pensez digne d'intérêt et qui peut avoir ou ne pas avoir de rapport avec le sujet de votre livre?
Alors, ben, je vais plutôt souligner un film soviétique, hein, et vous proposer un film soviétique qui est un film des années 70 qui s'appelle Sport, 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 d'un réalisateur qui s'appelle Elem Klimov, et qui est un film très original parce qu'il va proposer à la fois une critique de la préparation en URSS, mais qui propose aussi une forme de vision éthérée du sport tel qu'il doit être le sport de demain. Et donc ce film, pour moi, c'est à la fois une source très intéressante sur la vision que pouvaient avoir certains milieux avant-gardistes du sport, mais c'est aussi un moyen de mettre, c'est un très beau film, hein, c'est aussi pour le plaisir esthétique qu'il faut le voir, parce que c'est un film à la fois très original sur le discours, à la fois très intéressant sur ce qu'il a à dire sur le sport en Union soviétique, mais enfin, c'est aussi un film très bien esthétiquement. Donc, je vous conseille vivement de voir ce film Sport, 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 qui est accessible sur YouTube, gratuitement.
Super, on mettra aussi des liens sur les réseaux. Et ça me fait penser qu'on n'a pas abordé non plus ce dont vous parlez dans le livre, c'est-à-dire la chute de l'Empire soviétique, la chute du mur, etc. Et ses conséquences, les révélations sur le traitement des sportifs dans l'Union soviétique, etc. Qui est aussi de mémoire la dernière partie ou l'avant-dernière partie de votre livre. Bref, merci encore vraiment d'avoir accepté l'interview et je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Previously on Desperate Housewives.
Previously on Buffy the Vampire Slayer.
Previously on Daniel.
Previously on
Fringe.